Là, on est... J'en ai une autre.
Non, mais on peut passer.
Mais je passe.
Alors.
Bonjour. Bonjour à tout le monde. On continue sur la deuxième table ronde discussion d'aujourd'hui.
En plus, recherche plus.
Donc, on va parler d'algorithmes maintenant. Et on va en parler avec deux éminents interlocuteurs, donc Alexis Toussias et Daniel Lemaitre. Donc, Alexis est directeur de recherche aux NRS, l'AMSAD, l'Université Paris-Dauphine et à PSL. Il s'intéresse aux sciences et technologies en général et plus précisément aux algorithmes d'aide à la prise de décision. Il était un des initiateurs de la communauté Algorithm Decision Theory. Et il a été membre du conseil, dans la période où il était membre du conseil scientifique de l'INS2I, il a promu la discussion autour de la responsabilité sociale des algorithmes. Et il va nous parler de ça. Et à ma gauche, Daniel Lemaitre est chercheur, directeur de recherche en IRA à Lyon. Il s'intéresse aussi aux interactions entre technologie de l'information, au droit et la société. Et il a travaillé sur des questions de protection de la vie privée dans les derniers jours. Il a été aussi membre de la Commission européenne pour l'application de la nouvelle loi RGPD. Il a écrit un rapport pour le Parlement européen sur les défis et les enjeux des algorithmes liés à la prise de décision. Donc, on a une belle session sur la question des algorithmes et de la prise de décision aidée par ces nouvelles technologies. Je passe tout de suite la parole à Alexis.
Alors, bonne journée et merci pour cette invitation. En réalité, je serai très rapide, non? Surtout parce que vous pouvez lire, il y a sur le transparent, il y a le site dans lequel vous pouvez récupérer le document qui est un document public du CNRS, en tout cas du Conseil scientifique de l'INSDSI, qui présente. Donc moi, je vais faire très rapidement une présentation de ce que le document dit. Alors, et partons de quelques constatations. Non? Alors, les algorithmes existent avant l'existence du logiciel. C'est un concept ancien, non? Et qui n'est pas lié à la présence de logiciels. Nous utilisons des algorithmes pour plein de raisons, dans plein de domaines, depuis l'Antiquité. Non? Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait appel à des algorithmes pour nous aider dans plein d'applications. Des machines qui décident de manière automatique, non? Il y en a plein. Non? De véhicules autonomes, il y en a plein et vous les utilisez régulièrement. Les avions, c'est des véhicules autonomes qui se conduisent de manière automatique. Il y a de temps en temps l'intervention du pilote, mais en général, c'est un véhicule qui voyage seul. Le VAL, non, que vous preniez régulièrement à Paris, à Lyon, non, c'est des véhicules autonomes qui se conduisent de manière indépendante. De temps en temps, il y a un bonhomme qui contrôle que tout marche bien, mais en général, c'est une machine qui décide de manière autonome. Et il y en a plein de machines de ce type-là autour de nous qui existent depuis longtemps. Ce n'est pas les avions, la conduction automatique des avions, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Il y a des décennies qui existent, non? Alors, donc, malgré le fait qu'il y a, que nous utilisons les algorithmes, que nous utilisons des véhicules, des machines, etc., etc., qui décident de manière autonome, c'est seulement aujourd'hui qu'on se préoccupe, non, qu'on se pose des questions massivement sur les conséquences, sur la responsabilité, sur la protection, etc., etc. Non, donc, il faut comprendre pourquoi, non, on se trouve dans un contexte de ce type-là. Alors, maintenant, avant de présenter quels sont les différents, disons, défis, non, il faut faire attention parce qu'il y a trois différentes, disons, typologies, non, de algorithmes qui peuvent nous intéresser. Non, alors, un, c'est des algorithmes que je vais appeler de data crunching. Non ? C'est des algorithmes qui élaborent massivement des données. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils font exactement, mais en tout cas, ils élaborent massivement des données. Non ? Et il y en a autour de nous plein d'algorithmes qui font ça. Pourquoi ? Parce que ce que vous voyez, c'est que la représentation synthétique de toute l'élaboration qui a été faite quelque part avant. Non ? Donc, il y a un problème qui consiste à comprendre comment on trouve une donnée qui est un chiffre, une information quelque part. Qu'est-ce qui a été fait avant ? Non ? Comment les données ont été élaborées ? Un exemple, c'est une blockchain, par exemple. C'est une machine qui élabore plein de données. Vous ne voyez pas ce que la blockchain fait. Ce que vous voyez, c'est seulement le résultat qui est la garantie de sécurité derrière le dernier bloc de la chain. Non ? Alors, il y a un deuxième niveau qui sont les outils qui font des recommandations de toutes sortes. Ce n'est pas seulement les outils de commerce électronique. Non, il y en a plein autour de nous, des outils qui élaborent l'information et qui recommandent quelque chose. Non, ils sont dans le domaine du commerce, mais sont aussi dans le domaine de l'éducation, Parcoursup. Non, mais il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus subtiles, parce que il y a une élaboration de l'information implicite à un processus de décision. Non, par exemple, on calcule l'indice de pollution parce qu'il y a quelque chose à décider à cause du fait que la qualité de l'air est... Non. Et troisième, il y a des algorithmes qui décident effectivement de manière automatique. Non, comme par exemple un algorithme qui conduit un avion. Non, que sur la base de l'information qu'il capte, non, élabore ce qui est le parcours... de l'avion, non ? Alors, quels sont les défis qui nous intéressent ? Et ça sera mon dernier slide, non ? Alors, vous voyez là le site sur lequel vous pouvez récupérer le document du Conseil scientifique de l'UNSDSI, non ? C'est une dizaine de pages où ce que je vais vous présenter est détaillé de manière très claire, non ? Alors, il y a une première dimension qui est l'extension de l'autonomie décisionnelle. Non ? Alors, l'extension de l'autonomie décisionnelle est ce qu'en anglais on appelle liability. Qui est-ce qui va payer les conséquences d'une décision ? Non ? Donc, pourquoi on a des avions automatiques ? Ben parce qu'on a réglé le problème, qui est-ce qui va payer quand l'avion tombe ? Et pourquoi, quand il y a eu l'explosion du volcan islandique, nous avons arrêté le vol ? Parce que les assurances, ils couvraient, ils n'étaient pas prévus la couverture d'un accident au cas où l'avion tombait pendant que le volcan... donc, il n'avait pas probablement, il avait aussi un vrai risque. Mais la raison pour laquelle les avions étaient cloués au sol, c'était un problème d'assurance. Qui est-ce qui payait, non ? Au cas où, non ? Donc, la limite de l'autonomie décisionnelle, c'est, les juristes doivent me dire quel est le mot correct, liability, la responsabilité, non ? Alors, évidemment, c'est aussi une question politique, non ? Politique, pas dans le sens de la politique politicienne, c'est aussi une politique d'entreprise. Jusqu'à quel point, non, nous pensons que ça sert à avoir un processus de décision automatique pour gérer une entreprise, pour planifier, pour admettre les étudiants à l'école, etc., etc. Jusqu'à quel point nous souhaitons amener la décision automatique ? Il y a un deuxième aspect qui consiste à dire... Quand moi je fais la conception des algorithmes, je peux décider a priori quelles sont les propriétés que l'algorithme doit satisfaire. Par exemple, je peux exiger que l'algorithme soit neutral. Non? Et qu'est-ce que ça veut dire neutral? Il y a plusieurs définitions. Je peux exiger qu'il soit équitable. Encore là, il y a plein de décisions, de caractéristiques et des axiomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire équitable? Non? Ben, toutes ces définitions-là, il existe un domaine qui s'appelle mechanism design. C'est un domaine de l'économie, vient de l'économie. Non? Probablement, on devait se poser des questions dans l'algorithm design, de comment utiliser le mechanism design, la satisfaction a priori théorique de certaines propriétés appliquées à la conception des algorithmes, de manière à garantir que le résultat d'un algorithme satisfait une ou plusieurs propriétés. On va découvrir que ce n'est pas toujours possible, parce qu'un des résultats des études du mechanism design, c'est que certains propriétés souhaitables d'une procédure de décision sont inconsistantes. Je ne sais pas combien de monde connaît le théorème d'Arrow, non, sur les procédures de vote, non. Et vous savez que c'est impossible d'avoir une procédure démocratique et efficace. Efficace, ça veut dire pouvoir décider, et démocratique, ça veut dire qu'elle n'est pas manipulable, qu'il respecte la volonté de la majorité. Mais c'est impossible. Il a un théorème qui le démontre, qui date des années 50. Non? Donc, vous voyez, le mécanisme design, en général, la théorie de la décision, elle peut vous donner aussi quelques résultats un peu difficiles. Alors, il y a un troisième défi qui est l'explication. Non? Il faut tracer un algorithme de manière à être transparent. Il faut pouvoir l'expliquer, c'est un peu plus compliqué que le traçage, mais il faut aussi pouvoir donner les raisons ultimes pour lesquelles nous avons admis un étudiant à une école ou non, qui n'est pas l'explication de ce que l'algorithme a fait, et encore moins sa trace. Non? Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir un état de confiance. Non? Maintenant, alors, ça, c'est tout ça que je viens de dire. Ça concerne les algorithmes et c'est indépendant du fait que l'algorithme est un logiciel. Maintenant, il y a une couche supplémentaire qui est le fait que maintenant, on doit traiter avec des logiciels. Donc, il faut vérifier le logiciel de manière formelle pour qu'il respecte ce que l'algorithme doit faire. Ce n'est pas sûr hein, qu'un logiciel fasse exactement ce que vous voulez, non? Donc, il faut faire attention. Il y a un problème de protection des données. Et pour finir, il y a deux questions qui sont plutôt de la dimension de la société. Non? Alors, un, il y a une asymétrie évidente entre nous qui nous fournissons les données et les opérateurs qui élaborent les données. Nous n'avons pas la même capacité de négociation. Et les asymétries du marché, c'est une déformation macroscopique du marché sur laquelle il faut faire beaucoup d'attention. Moi, en tant que fournisseur de données à Google, à Facebook, à je ne sais pas qui, etc., ma capacité de négociation avec les fournisseurs de services, les laboratoires de données, est minimale. Donc, il faut élaborer quelque chose sur cette asymétrie du marché. Et le deuxième, c'est est-ce que ce marché est régulable? Je lance une provocation. Une molécule chimique, avant qu'elle soit introduite dans le marché, doit passer par le Food and Drug Administration. On fait des tests, non? Il y a des trials, il y a des protocoles très spécifiques qu'il faut suivre, et une fois seulement que ces trials ont été vérifiés, on accepte d'introduire une molécule chimique dans le marché. Faites attention, une molécule chimique, on sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Non? Par contre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait dans un système complexe qui est l'humain. Non? Alors, est-ce qu'il faut faire la même chose pour les algorithmes? Est-ce qu'on devrait faire une autorité indépendante, non, qui certifie et autorise l'utilisation d'un algorithme dans la vie réelle? Et qu'est-ce que ça impliquerait, non, dans la société? Un acte de ce type-là. C'est une provocation, hein, parce que c'est clairement impossible. Mais qu'est-ce qu'on aurait comme conséquence si on se place dans cette perspective? Voilà. Merci beaucoup. Je m'arrête là.
Merci.
Bon, je vais faire avec. bien. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices pour leur invitation. Alors, j'ai indiqué sur cette première diapo, j'ai mis un lien vers le rapport que Tommaso a mentionné pour le Parlement européen. Alors bon, ce n'est pas le sujet en soi de mon intervention ce matin, mais j'en profite quand même pour faire glisser une petite page de publicité pour ce rapport. Alors ce que nous avons essayé de faire dans ce texte, c'est analyser les enjeux en matière de système d'aide à la décision, sans occulter les questions techniques, en essayant de les présenter de manière, disons, pédagogique, parce que bon, c'était destiné à des parlementaires. Mais bon, on a fait le constat que très souvent, ces rapports avaient tendance un petit peu à cacher sous le tapis, disons, les questions techniques, et je pense qu'elles sont importantes. De ce rapport, c'est le fait qu'on ne se focalise pas sur l'IA, en tout cas, on ne restreint pas le discours à l'IA. On a entendu ce matin avec Juliette Sénéchal notamment que bon, ce n'était pas forcément facile de circonscrire le phénomène. Et là, nous, notre position, c'était de dire que l'important, c'était qu'un système soit utilisé pour prendre des décisions. Et des décisions qui peuvent être importantes, qui peuvent affecter des personnes, des groupes, voir la société. Donc notre objet, disons, d'étude dans ce rapport, c'est les systèmes d'aide à la décision. Alors, un des points qu'on a mis en avant dans ce rapport, et ce sera un petit peu le fil conducteur ou le focus pour cette présentation, c'est la notion de redevabilité. Alors, redevabilité, disons que c'est ma traduction personnelle du terme anglais accountability. Bon, je pense qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en français. J'étais au Québec il y a 2 semaines, ils utilisent beaucoup le terme reddition des comptes. Et bon, je sais que c'est aussi utilisé dans le domaine de la politique. Mais bon, je trouve que bon, c'est un peu lourd, disons, un peu abscon pour le commun des mortels. Donc je trouve que le mot redevabilité traduit bien ce qu'on a envie d'exprimer ici. Mais encore faut-il définir ce terme au-delà du mot qu'on choisit. Et là, j'ai choisi pour caractériser, disons, cette notion, une définition que... Alors bon, ce n'est pas exactement la définition de Robin Beans, un chercheur d'Oxford, mais disons qu'on s'en est inspiré, et qui définit la redevabilité comme le fait que une entité doive rendre compte à une autre entité de ses actions. Et éventuellement, elle peut être sanctionnée si ses actions ne sont pas... ne sont pas adéquates ou ne sont pas conformes. Donc l'essentiel, là, c'est l'idée de rendre compte. Alors bon, c'est une notion qui est utilisée dans différents domaines, en particulier dans le domaine de l'environnement, elle a été pas mal utilisée. En matière de vie privée également, c'est un des fondements, je dirais, du RGPD aujourd'hui. Et à chaque fois, il y a l'idée derrière ça que il y a des acteurs qui sont en situation de pouvoir ou de force, et donc ils ont à rendre compte, pour rééquilibrer en quelque sorte un peu la situation, ils ont à rendre compte de la manière dont ils utilisent ce pouvoir, cette force. Alors, bon, dire qu'on doit rendre compte, ça ne résout pas le problème. Il faut se poser la question en matière de système d'aide à la décision, rendre compte de quoi, rendre compte à qui et comment précisément rendre compte. Alors, d'abord, de quoi rendre compte ? J'ai envie de dire que pour que la redevabilité soit, disons, véritablement effective, pour qu'elle tienne toutes ses promesses, il faut rendre compte sur tout le cycle de vie, toutes les étapes de la conception jusqu'à l'utilisation d'un système d'aide à la décision. D'emblée, par exemple, au moment de la conception, quelle est l'intention, quels sont les objectifs, ensuite, comment ces objectifs sont-ils traduits dans l'architecture du système, Ensuite, sa mise en œuvre, comment est-ce qu'il est réalisé? On a vu qu'il y avait beaucoup de techniques qui pouvaient être mobilisées. Comment est-ce qu'il est testé? Comment est-ce qu'il est vérifié, comme Alexis le disait tout à l'heure? Et puis ensuite, comment est-ce qu'il est appliqué? En réalité, quelles sont les décisions qui sont prises ou qui sont suggérées sur la base d'un système? Et chacun de ces niveaux, chacune de ces étapes peut poser des questions de légitimité. D'emblée, la finalité, l'objectif visé, est-ce que c'est légitime, par exemple, de condamner un prévenu plus ou moins selon son profil de risque, déterminé par un algorithme? Est-ce qu'il est légitime ou pas de noter, comme ça se fait dans certaines écoles américaines, sur la base de leur valeur ajoutée, les enseignants, et sur la base de cet algorithme, décider ou pas si on prolonge leur contrat? Est-ce que c'est légitime? Comment est-ce qu'on calcule cette valeur ajoutée? Bon, je pose ces questions-là parce que bon, ce sont des cas réels et qui, effectivement, dans la pratique, ont posé des questions de légitimité. Mais même si l'intention, si l'objectif est légitime, après, la technique qu'on utilise ne le sera pas forcément. Je crois que c'est CIEM ce matin qui, dans le premier panel, parlait des différences qu'il peut y avoir entre corrélation et causalité. Bon, on se rend compte que souvent, on utilise des algorithmes qui nous donnent des informations qui tiennent de la corrélation et on les utilise comme s'ils, en fait, nous donnaient des informations de causalité. Et donc là, ça peut conduire à des usages complètement abusifs de ces systèmes. Et enfin, l'application elle-même, même si on a passé, disons, avec succès les autres étapes, eh bien, il peut toujours se trouver des résultats, des décisions particulières qui devraient pouvoir être contestées. Donc, il faut rendre compte de chacune de ces étapes. Ensuite, comment en rendre compte? Donc là, j'en viens à des modalités qui recoupent, je crois, partiellement ce que a dit Alexis, peut-être pas exactement, on pourra voir. Il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, beaucoup de termes, de notions qui sont dans l'air. On parle de loyauté, de transparence, d'intelligibilité, mais sans toujours les définir très précisément, et quelquefois même de manière un petit peu, disons, indifférenciée. Alors là, j'ai envie de différencier au moins trois niveaux, trois modes, trois modalités, disons, de la redevabilité. D'abord, il y a la transparence, que moi, je caractériserais par le fait par l'action de montrer. Pour moi, rendre transparence, c'est montrer. Donc l'objectif, là, c'est rendre visible. Donc ça, c'est une première étape, c'est une première modalité. Ensuite, comme le disait aussi Alexis, on peut vouloir expliquer, parce que montrer, ça n'explique pas forcément. Donc là, c'est donner des raisons. Pourquoi a-t-on suggéré ou a-t-on obtenu telle décision? Pourquoi la logique du système a-t-elle été choisie de cette manière-là? Donc là, l'objectif, ce n'est pas seulement de montrer, ce n'est même pas de montrer, c'est d'expliquer. Et d'ailleurs, on peut même quelquefois faire l'un sans l'autre. Et moi, j'ai envie aussi de mettre en avant un troisième niveau que j'appelle la justifiabilité, qui là est encore différente ou va au-delà de l'explication. Ce n'est pas seulement de dire pourquoi on a pris une décision, mais c'est aussi de dire pourquoi cette décision, ou d'essayer de justifier pourquoi cette décision est la bonne. Et donc là, l'objectif, ce n'est pas de faire comprendre, c'est de faire accepter. Alors évidemment, en dernier lieu, le bien fondé d'une justification doit relever de l'appréciation humaine, ce qui n'empêche pas qu'on peut, avec certains outils, faciliter ou aider à faire cette appréciation. Dernier point, à qui rendre compte? Là, j'ai envie de dire aussi que si on veut que la redevabilité soit vraiment effective, il faut être capable de rendre compte à toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire évidemment les personnes qui sont affectées par les décisions, mais aussi ceux qui vont utiliser un système, ils ne sont pas forcément les mêmes. On peut avoir, par exemple, un médecin qui va utiliser un système de la décision, un juge. Donc ça peut être un professionnel. Ça peut être également le régulateur qui peut vouloir auditer un système. Ça peut être des représentants de la société de manière plus générale. Et l'important, c'est que chacun de ces acteurs, chacune de ces parties prenantes, peut avoir des besoins différents. Donc, en termes d'explicabilité, par exemple, ça voudra dire des types d'explications différentes. Un autre point qui me paraît important en termes de redevabilité, c'est que j'ai dit que c'était une relation, mais ce n'est pas une relation unilatérale. C'est-à-dire que si on pense aux explications, par exemple, il n'est pas satisfaisant d'avoir un système qui vous dirait « voilà l'explication, point final ». Bon, ça a été étudié notamment par des psychologues qui ont bien montré qu'on comprend quand on peut interroger un système. D'où l'importance, à mon avis, bon, c'est un courant qui commence à prendre l'importance, de la dimension interactive de toutes ces modalités, et en particulier des explications. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Là, j'ai donné trois modalités pour trois étapes principales dans le cycle de vie d'un système. Toutes ont du sens. Alors, toutes ne posent pas les mêmes questions, mais elles en posent beaucoup. Là, en disant tout cela, je ne dis pas que tous les problèmes sont évidemment résolus. On sait que les algorithmes évoluent, donc une explication ne vaudra qu'à un moment donné. On sait qu'un système ou un algorithme d'aide à la décision fait partie d'un système plus large, un système ou un assemblage, certains appellent ça des assemblages technico-humains, qui est la place de l'algorithme dans cet assemblage. Les explications elles-mêmes peuvent être quelquefois sujettes à caution, biaisées, même si elles sont correctes. On peut en trouver des exemples, on pourra en parler éventuellement. On peut quelquefois utiliser de façon stratégique les explications pour utiliser le système à son avantage. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle en la matière. Ce sur quoi nous travaillons en ce moment, c'est une, disons, de ces options, une de ces combinaisons, qui est les explications interactives en boîte noire, donc sans connaissance du code d'un système. Mais je voudrais, pour conclure, mentionner une autre combinaison qui me paraît très importante, c'est ce qu'on appelle quelquefois les études d'impact ou les analyses d'impact algorithmiques. Donc c'est un peu le pendant, je dirais, des études d'impact ou des analyses de risque qui sont demandées aujourd'hui par le RGPD en matière de protection de vie privée. Donc vous le savez sans doute, dans certains cas, dès qu'il y a un risque potentiel, on doit conduire une analyse de risque vie privée. C'est une obligation du RGPD. Il n'y a pas d'obligation exactement similaire, en Europe en tout cas, à ma connaissance, pour les algorithmes. Mais je pense que dans bien des cas, ce serait tout à fait justifié. Ça devrait couvrir, comme je le disais tout à l'heure, tout le cycle de vie du système. Donc ça devrait être quelque chose qu'on conduit d'emblée. Et en fait, ce n'est pas, comment dirais-je, une simple vue de l'esprit. Je pense qu'on pourrait prendre l'inspiration du côté de nos amis canadiens, pour une fois. On a été peut-être en Europe moteur, leader en matière de protection de la vie privée, mais là, je pense qu'ils prennent un peu d'avance sur nous. Ils ont adopté en avril dernier une directive qui justement impose des analyses d'impact. Alors, ils appellent ça des évaluations de l'incidence algorithmique. Ils ont même défini dans cette directive différents niveaux de risque. Et selon les niveaux de risque, eh bien, des mesures précises de ce que moi j'appelle explicabilité, justifiabilité et publicité, c'est-à-dire transparence. Alors, c'est limité pour l'instant, cette directive, à l'administration fédérale. Donc, ce n'est pas non plus une solution complète. Donc, voilà, je pense que je ne vais pas lire la conclusion. Vous pouvez la lire vous-même parce que le temps presse.
Oui, on est un peu en retard, mais je pense qu'on va encore 5 minutes.
Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une question toute bête qui est comment on va faire avec les algorithmes qu'on ne comprend pas, les algorithmes qui sont générés par d'autres algorithmes, avec la programmation génétique par exemple, ou bien tous les réseaux neuronaux qu'on a du mal à expliquer. Comment on va faire par exemple pour expliquer des algorithmes que personne ne comprend ?
Je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais je peux répondre rapidement, puisque c'est un de nos sujets de recherche. C'est ce que j'appelais dans ma présentation les explications en boîte noire. Donc on n'essaye pas de rentrer dans le code ou le texte ou le modèle qui a été produit par l'apprentissage, s'il y a eu de l'apprentissage, puisque c'est ce que vous avez en tête, j'imagine. On exerce le système, en quelque sorte, on fait de la rétro-ingénierie. Et on essaye d'extraire de cette rétro-ingénierie des informations qui sont intelligibles par le destinataire de l'explication. Alors, comme je disais tout à l'heure, selon le profil du destinataire, ça pourrait prendre des formes tout à fait différentes. Si c'est un néophyte complet, on peut imaginer générer des phrases, même en langue naturelle, ou des règles dans un format plus ou moins contraint, ou sous forme d'arbre de décision, qui pourraient être comprises, mais qui, et là je mets quand même je prends des précautions, qui ne seront qu'une approximation, bien sûr, de ce qui se passe dans la boîte. Quand on cherche à expliquer quelque chose de complexe, forcément, on fait des simplifications, donc on trompe un petit peu. On n'est pas absolument précis, mais il faut le faire en respectant certaines règles. C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure qu'il peut y avoir des questions de loyauté des explications elles-mêmes.
Je vais ajouter un élément de réflexion. Non ? Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi une personne fait quelque chose? Malgré ça, on peut donner des responsabilités, on peut, ce n'est pas vraiment une explication, on peut reconstruire ex post les raisons qui ont conduit une personne essentiellement à entamer une action. Eh bien, un algorithme dont on ne connaît pas exactement de manière déterministe, non, ce n'est pas formellement très différent de ce que je viens de... Non. Vous avez une entité qui raisonne, qui se comporte, et vous expliquez ce qu'il fait, malgré que vous ne connaissez pas exactement ce qu'il fait, son fonctionnement interne. Exactement comme moi, nous sommes incapables d'expliquer le système humain dans sa totalité. Donc, il y a des études formelles qui s'occupent de ça.
Bonjour, Maxime Lambrecht, Université Libre de Bruxelles. J'avais une question concernant donc l'explicabilité des algorithmes. Je me demandais, au fond, c'est vraiment une question ouverte, hein, dans quel sens ça joue, étant donné la tendance qu'on observe parfois, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié empiriquement, mais le soupçon en tout cas que lorsqu'on a un droit à un recours à une intervention humaine, hein, comme c'est prévu notamment dans RGPD, etc., et comme une tendance, eh bien, le modérateur humain qui se base sur une décision algorithmique, il va avoir parfois tendance, en fait, à se fier très fort dans la décision algorithmique. Hein. Il a tendance à avoir confiance dans l'IA et à dire « Ok, je confirme ». Et alors, du coup, moi, je me demande dans quel sens l'explicabilité va aller. Parce que, donc, d'un côté, ça donne une possibilité de contester la décision de l'IA, mais est-ce qu'en renforçant la légitimité de la décision et en donnant des raisons qui apparemment peuvent paraître raisonnables, est-ce que ça ne pourrait pas aussi renforcer ce biais qui fait qu'on a confiance dans la décision de l'IA et que du coup le modérateur ou la personne responsable de vérifier la décision va avoir tendance à la suivre?
Oui, merci. Je crois que c'est une très bonne question. Et donc, ça rejoint ce que j'évoquais tout à la fin sur l'évaluation des explications. Donc, il commence à y avoir des travaux là-dessus, même si c'est encore véritablement embryonnaire. Et ils sont variés, ces résultats expérimentaux. Alors, une des choses qu'on essaye de mesurer, c'est à quel point les explications vont permettre à un humain, ensuite, soit de mieux prédire le résultat du système. C'est une manière de voir s'il comprend comment il fonctionne, mais aussi s'il sera mieux en mesure de détecter des erreurs du système. Et donc là, je pense que ça pourrait apporter des éléments de réponse à ce que vous venez d'évoquer. Si, comme certains résultats le montrent, ça pourrait aider un utilisateur humain à mieux repérer les dysfonctionnements du système, alors on pourrait dire que c'est une véritable aide qui pourrait améliorer, disons, permettre d'entretenir une relation plus fluide entre la machine et l'utilisateur humain. Mais tout cela est vraiment un sujet de recherche encore.
Oui, je vais ajouter qu'il y a des gens qui utilisent la théorie formelle de l'argumentation exactement pour évaluer, non, la capacité des explications à rendre compte des raisons ultimes pour lesquelles l'algorithme a reconstruit, a pris une décision. Non ? Et donc, ce n'est pas l'explication des actions, non, de la séquence, non, mais c'est arriver jusqu'au fond, non, et on utilise la théorie formelle de l'argumentation pour faire ça. Ben, évidemment, c'est à un niveau de recherche qu'on fait ces actions.
Il y a une autre question juste derrière, si vous voulez passer le micro.
Non, merci.
Oui, moi j'avais juste une question à propos de la définition de la redevabilité pour Daniel. Est-ce que tu penses que pour couvrir le risque donné, il y aurait besoin de l'étendre un peu ? Parce que dans la définition que tu proposes, il s'agit d'action. Et voilà, c'est tout. Non. Et si oui, est-ce qu'on peut la revoir ? Je voulais juste la relire.
Non, je pense qu'elle est suffisamment générale. Donc quand j'ai dit que ça doit couvrir tout le cycle de vie d'un système d'aide à la décision, donc voilà, pour moi dans la phase 2, là, j'indique clairement les données d'apprentissage, donc pour moi c'est dans la partie implémentation. Comment est-ce qu'on a traduit l'intention initiale dans la réalité ? Et donc si on a utilisé des données d'apprentissage, eh bien effectivement ça relève pour moi de la redevabilité au niveau de la mise en œuvre.
Oui, je suis d'accord avec toi dans la mise en œuvre, mais si je reviens sur la définition, enfin juste...
C'est
juste
sur la définition.
Si possible. Une question de rendre compte de ses actions. Donc une action, ça peut être aussi, enfin, de ton point de vue, une mise en œuvre plutôt que opérationnelle dans le sens...
Oui, l'action, c'est très général, oui.
Merci.
On a le temps pour une toute dernière question, on m'a dit. Là devant, si vous pouvez faire passer le micro. On fait ce petit exercice collectif de passage de micro sous de la salle.
Merci beaucoup. Judith Rochefeld, je suis juriste. Je voulais savoir où on en était, parce que nous, on a du mal à se repérer. Il y avait beaucoup de projets, de plateformes collaboratives par informaticiens et autres sur justement des vérifications d'algo, de redevabilité, si je prends les termes. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'elles se sont mises en place ? On en visualise certaines, mais il y a une cartographie quelque part de toutes ces possibilités mises en place ou ça reste encore flou ? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler à un moment et puis après ça a disparu. C'est pas clair ce que je dis.
Si, c'est très clair. C'est la réponse qui n'est pas simple. Alors, en tout cas, je ne connais pas de synthèse ou de point d'entrée, disons, unique. Effectivement, il y a des organisations, il y a des chercheurs qui étudient un certain nombre d'algorithmes et qui publient des résultats, qui répertorient certaines dérives. Il y a des études qui sont menées quand même à plus ou moins grosse échelle. Mais il n'y a pas un point d'entrée unique, connaissance.
C'est un outil méthodologique.
Ouais. À ma connaissance, en tout cas.
Et il y a été question à un moment où l'INRIA voulait mettre en place une plateforme de test.
Transalgo.
Oui, pour les algorithmes. Pour l'instant, ça ne marche pas.
Merci encore.